Veuillez lire dans l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 28 à 57.
Tu penses qu'elle se rend au sépulcre, il la voit quitter la maison et la suivent. Ils vont donc se retrouver en présence de Jésus. Tout comme sa sœur, Marie commence par exprimer le regret que Jésus n'ait pas été présent lors de la maladie de Lazare, car alors, dit-elle, il ne serait pas mort, mon frère ne serait pas mort. Comme nous l'avons déjà remarqué, c'est une foi, mais une foi limitée. Marie a partagé la pensée de sa sœur Marthe, et tous deux ont regretté ensemble que Jésus se soit trouvé absent pendant la maladie de Lazare, sans quoi il ne serait pas mort. Leur pensée s'est arrêtée là, et leur foi a trouvé dans cette pensée une sorte de limitation sur laquelle elle a buté, ce qui arrive souvent pour nous. Une pensée, nous nous donnons une pensée, puis notre foi vient et bute sur cette pensée sans qu'on puisse aller plus loin. Mais ce qui marque bien la différence des caractères des deux sœurs, c'est que Marthe, lorsqu'elle arriva au devant de Jésus, se mit tout de suite à parler avec sa spontanéité, sa vivacité coutumière, tandis que Marie, elle, remarquons-le, lorsqu'elle arrive devant Jésus et qu'elle le vit, tomba à ses pieds. Elle tombe à ses pieds, ce que n'avait pas fait sa sœur, voyez-vous. Voilà une grande différence. Il y a de la part de Marie, n'est-ce pas, une véritable adoration, une adoration. Elle est capable d'adoration. Sa sœur Marthe est capable d'action, vivacité, peut-être d'une foi qui peut aller à l'égal de Marie, mais elle n'a pas l'adoration. C'est une chose qui fait défaut, chers amis, ça dépend peut-être, évidemment, de notre capacité spirituelle. Je ne dis pas capacité humaine, capacité spirituelle. Cela dépend, mais il faut, certes, remédier à tout ce qui est insuffisant en chacun de nous et demander à Dieu qu'il nous donne la possibilité de contempler et d'adorer la personne de Dieu en la personne de Jésus. Marie était accablée et elle pleurait toujours son frère. Nous voyons encore là que Marie était un cœur particulièrement sensible et capable d'un très grand attachement. Sa sœur, elle, ne pleurait pas, mais elle, elle pleure. Elle est capable d'un grand attachement. Et Jésus n'aura pas avec Marie l'entretien qu'il a eu avec Marthe. La chose n'est pas nécessaire. Le Seigneur comprend toute âme humaine et il parle à chacune comme il convient. Il n'est pas dit que le Seigneur Jésus agira de même manière avec tous. Il agit selon l'âme, il sonde les cœurs et les reins, il connaît les dispositions des cœurs et il agit en conséquence. Le texte nous montre que Jésus, voyant pleurer Marie et les Juifs, frémit en son esprit et fut tout ému. Et nous pouvons nous demander, certes, quelle est la nature de cette émotion, quelle est la cause de cette émotion. Il frémit en esprit. Frémit en son esprit et fut tout ému. Au point que tout à l'heure, il va pleurer. Pas le texte va nous dire que Jésus pleura. Eh bien, il faut comprendre cela. J'aimerais vous...
Je ne sais pas si je vous ai dit ou vous ai dit, mais je ne sais pas où cela ou beaucoup de vous n'étaient pas là. Il est bon de revenir sur la connaissance de l'homme, la connaissance selon la révélation, bien sûr, de l'homme qui correspond d'ailleurs à la connaissance de l'homme selon certains auteurs, certains philosophes. L'homme est composé de trois parties, n'est-ce pas ? Le corps, âme et esprit. Voilà. Voilà ce qui fait l'homme, n'est-ce pas ? Deux textes du Nouveau Testament nous le disent, la première aux Thessaloniciens et l'Épître aux Hébreux. Corps, âme, esprit. Et beaucoup, bien des auteurs se sont ingéniés de différencier le corps, ce n'est pas difficile, certes, mais de différencier l'âme de l'esprit dans cette conception qui est appelée généralement, on a tellement écrit là-dessus, la conception trialistique, tricotome. La conception trialistique ou tricotome de l'homme. Bon, ça, c'est les termes un petit peu savants, mais peu importe. Et on a beaucoup parlé là-dessus. Dans des ouvrages évangéliques, on a aussi voulu élucider cette différence entre l'âme et l'esprit. Et on a dit des sottises. On a dit des sottises. Méfiez-vous des ouvrages évangéliques qui prétendent définir l'esprit et l'âme. Généralement, il se trompe. Si l'on s'attaque à l'Écriture et à tout ce qu'on peut trouver dans la révélation de Dieu, l'on verra que l'esprit est le siège des relations avec Dieu. L'esprit est le siège des relations avec Dieu. Et puis l'âme est le siège, disons, des émotions. De la vie psychique. Ce correspond d'ailleurs au terme, mais... le siège des émotions psychiques. Et le corps, je n'en parle pas, n'est-ce pas ? Vous savez ce que c'est. Et souvent, on a voulu faire de l'âme parce qu'on ne comprend pas que le mot âme est souvent utilisé dans un autre sens. Il y a plusieurs sens dans la Bible attachés au terme âme. Et je ne vais pas rechercher toute l'histoire de ce terme dans la Bible. Il varie. Il est employé, la langue française est assez pauvre et il n'est pas possible de toujours trouver le terme qui convient pour traduire certains termes hébreux ou grecs. Mais, n'est-ce pas, voilà, je vais vous montrer un seul texte qui va suffire pour établir ce que je vous dis ici. Mais, ce que je voudrais faire, c'est vous montrer comment cela fonctionne. C'est ça qui est important. S'il s'agit de l'homme naturel, l'homme naturel, lui, est réduit à cela. L'homme naturel est réduit à cela parce que son esprit est mort. Les relations avec Dieu n'existent plus. C'est mort. Complètement mort, n'est-ce pas ? Vous étiez mort par vos offenses. et c'est comme si l'esprit était supprimé. En réalité, il existe, mais il est inactif, il est ce cœur pur, ce cœur fermé, n'est-ce pas, qui n'a plus de rôle. Et alors, l'âme étant le centre des émotions, elle, ce n'est pas elle qui, en somme, est à l'origine des émotions, elle est le siège, je dis siège, n'est-ce pas? L'origine ne peut être qu'ailleurs. Et dans l'homme naturel, il y a ceci, n'est-ce pas? C'est que l'origine des émotions est dans la chair. Et dans la chair, et monte de la chair vers l'âme. Si bien que l'âme traduit les émotions de la chair. Même si ce sont des émotions artistiques, qui sont par exemple des émotions éprouvées en entendant un beau morceau de musique, n'est-ce pas? Tout cela est encore de l'activité psychique et provoqué en liaison avec la chair. Uniquement la chair. Tout est, en somme, tout est mouvement, charnel. Tout est charnel. Tout est dans l'ordre charnel. L'âme ne reçoit donc pas d'autres émotions que celles qui peuvent venir du corps, de la chair. Et c'est cela, en somme, qui est appelé l'homme chair. L'homme de chair, c'est celui-là. C'est l'homme qui n'a plus l'esprit, n'est-ce pas? Son esprit est mort, et l'homme de chair, il a bien cette âme qui est capable d'émotion. L'homme le plus méchant peut pleurer, l'homme le plus méchant peut être ému et être troublé à la vue du sang, à la vue d'un accident, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire pour ça qu'il est bon, il sera tout aussi méchant après qu'avant, n'est-ce pas? Et il peut voir une très belle pièce, il peut entendre un très beau morceau de musique, ça ne changera absolument rien à cet homme. Ça, il pleurera peut-être devant une pièce, devant un drame, ça, il pleurera vraiment, n'est-ce pas? Son âme sera en proie à une forte émotion, il pleurera, ça. Et le lendemain matin, à son ouvrage, s'il est le chef, par exemple, d'une industrie, il sera tout aussi intense, disant qu'il est méchant avec ses employés. Vous voyez, il aura la veille au soir pleuré devant un drame, le lendemain matin, il sera pareil à lui-même. Il n'aura rien ne sera changé. On voit cela, n'est-ce pas, des gens extrêmement méchants et qui sont souvent très sensibles, mais leur sensibilité ne change rien, absolument rien à rien. Vous voyez que, donc, s'il n'y a pas l'esprit, si l'esprit n'est pas en relation avec Dieu, et nous parlions hier, n'est-ce pas, de la, du faux salut, n'est-ce pas, eh bien, le faux salut, en somme, c'est celui qui ne fait rien du tout, qui ne réveille pas l'esprit, et qui laisse l'homme dans cet état-là, agissant un petit peu par sensibilité, agissant aussi sur la pensée de l'homme, et en point, c'est tout. Tandis que dans la personne alors du Seigneur Jésus, n'est-ce pas, c'est tout différent. Ici, il n'y a point de coupure entre l'esprit et l'âme. Et il y a une coupure, si vous voulez, si on veut l'établir, ici. La coupure est ici. C'est l'esprit, et uniquement l'esprit, qui fait descendre des émotions dans l'âme. L'origine de toutes les émotions est dans l'esprit. Dans l'esprit qui est pur, n'est-ce pas? Jésus a une chair semblable à celle du péché. Semblable. Mais son esprit, lui, n'est-ce pas, est le gouvernement de tout son être. Voyez-vous, tout son être est gouverné par l'esprit, si bien que l'âme reçoit ses émotions, l'origine des émotions que l'âme ressent, ne fait que ressentir, mais l'origine de ce qu'elle ressent est dans l'esprit et non jamais dans le corps. Jamais, n'est-ce pas? Le corps, lui, est bien, voilà la situation. Alors, quand il nous est dit que Jésus frémit en son esprit, c'est que l'origine est là. Là, vous voyez, l'origine est là en son esprit. Il se passe quelque chose, je vais vous dire quoi dans la circonstance, il se passe quelque chose dans son esprit, et alors, il frémit en son esprit, et il fut tout ému. Le frémissement d'esprit communique à l'âme une émotion, et vous comprenez alors cette émotion, n'est-ce pas, qui est bien de nature psychique, cette émotion est une émotion sainte et bonne, puisqu'elle a son origine ici. Ben, vous voyez, comprenez ces choses.
Je voudrais vous montrer un texte qui établira suffisamment que l'esprit est bien ce que je vous dis. Romains 8, versets 15 et 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même, l'esprit avec un grand E, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voyez-vous, l'esprit de Dieu à notre esprit. C'est entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme qu'il y a cette communication, ces relations. L'esprit, donc, de l'homme est plus même que le siège de ses relations, n'est-ce pas, avec Dieu, il est l'individualité réelle de la personne humaine. L'individualité, donc, est là. Et dans un état de perfection, l'esprit, n'est-ce pas, pleinement en éveil, bien sûr, l'esprit qui est dans la vie, dans la résurrection, l'esprit a le gouvernement de tout l'être humain, pas, et notamment du corps. Le corps ne prend pas de décision, la chair ne prend pas de décision, la chair ne provoque pas des émotions, ne provoque pas des pensées, des intentions, c'est l'esprit qui fait tout cela. La chair n'est qu'un support qui obéit à l'esprit parfaitement. Voilà, n'est-ce pas, comment l'état de perfection peut s'établir dans l'homme. Mais voyez, Romains 16, l'esprit rend témoignage à notre esprit. Vous voyez que l'esprit est donc bien le siège des émotions. Alors, pourquoi l'esprit de Jésus frémit-il? C'est ce qui nous importe maintenant de savoir. Eh bien, il y a plusieurs raisons que nous devons analyser. Premièrement, cette mort d'un ami est la manifestation du mal. C'est un cas particulier de la manifestation du mal. L'œuvre de Satan, l'œuvre de mensonge, la révolte inconsidérée de l'homme, tout cela a valu à l'humanité la mort, ce triste sort qu'est la mort. Et Jésus est amené à toucher de près dans son humanité, a touché de près les conséquences terribles du mal. Car il connaissait particulièrement cette famille, et par ce rapport humain, n'est-ce pas, il est davantage en contact avec ce cas particulier. Il y en a tant dans l'humanité, mais c'est un cas particulier, comme nous, n'est-ce pas, quand nous perdons un être cher, c'est un cas particulier qui nous fait toucher de près la mort. Et cette affreuse chose qu'est la mort. Alors, le Seigneur, n'est-ce pas, éprouve la séparation, cette séparation qui est anormale, la séparation de deux êtres unis par l'amour, c'est anormal, c'est une chose tout à fait anormale, l'amour ne peut pas cela, l'amour dans la vérité ne peut pas cela, l'amour veut garder, veut rester en relation, en communion. La l'amour ne veut pas de séparation. Eh bien, cette séparation est un effet du péché, de la mort. Alors, la séparation, la souffrance, le deuil, l'amour blessé, tout cela, c'est l'œuvre du péché. Et alors, le Seigneur Jésus, devant ce cas particulier, lui qui est à la fois le Créateur et la créature, il est dans la créature et il est le Créateur. Alors, vous comprenez qu'il peut joindre à la connaissance des causes, en tant que Créateur, l'évaluation du mal en tant que créature. N'est-ce pas? La connaissance des causes et l'évaluation du mal dans sa nature humaine, il rapproche les deux. Et c'est terrible ce rapprochement! Et c'est terrible! C'est terrible! Lui qui sait pour quelle gloire toutes les œuvres de Dieu ont été faites, lui qui sait le mobile d'amour de toutes les œuvres de Dieu, lui qui voyait cette terre, n'est-ce pas, qu'il a créée, car tout a été créé par lui et pour lui. Il voyait cette terre, il voyait l'homme qu'il a créé de ses mains. Et cela, dans le grand mobile d'amour de Dieu. Et puis, il voit ce que c'est devenu. Il touche de près les conséquences de la révolte de l'homme. Et il rapproche cela. Le rapprochement est terrible. Il en frémit. Et son esprit est comme indigné. Tout à nouveau, il a déjà été indigné, certes, dans le jardin d'Éden, mais il est indigné, comme tout à nouveau, de la révolte de l'homme et du rôle que Satan a joué. Deuxième observation à faire, deuxième analyse, il frémit encore le Seigneur Jésus car il vient panser la plaie du peuple, de son peuple, selon une expression du prophète. Il vient panser la plaie du peuple pour enlever la mort et en ôtant le péché. Cette mort horrible, il vient pour l'ôter, lui, et en ôtant le péché. Et c'est encore là quelque chose qui est de nature à le faire frémir en esprit. Troisièmement, il voit, nous est-il dit dans le texte, il voit les pleurs de Marie. Et les pleurs de Marie, il connaît cette femme, les pleurs sont bien l'expression d'une réelle souffrance, d'une souffrance réellement ressentie. Mais les Juifs pleurent aussi à côté d'elle. Et parmi ces Juifs qui pleurent, il s'en trouvera tout à l'heure qui le dénonceront aux pharisiens, manifestant ainsi l'incapacité de l'homme à la vérité et à l'amour. Ce sont les marques terribles, les traces du péché dans l'homme. Alors, il voit ces hommes pleurer, n'est-ce pas? Leurs pleurs sont des pleurs hypocrites. Tout à l'heure, plusieurs le dénonceront. Certains croiront, mais d'autres vont aller le dénoncer. Et cela aussi, ce mal qui reste attaché à la nature humaine, ce mal qui trouve dans toute occasion, même les occasions les plus douloureuses, qui trouve l'occasion encore de se manifester, le moyen de se manifester, alors cela fait frémir encore le Seigneur. Enfin, tout à l'heure, Jésus va ressusciter Lazare pour la gloire de Dieu et il sera lui-même glorifié. Mais ses adversaires n'en seront que plus poussés dans leur zèle à le supprimer. Voilà ce qui fait dans l'ensemble le frémissement en esprit du Seigneur Jésus. Et nous est-il dit, Jésus pleura. L'émotion de l'esprit descend dans l'âme, et Jésus, ému, son émotion va jusqu'à l'amener à pleurer. Mais en vous disant ce que je viens de vous dire, des causes du frémissement en esprit, les causes des pleurs, avec l'explication que je vous ai donnée, n'est-ce pas, sont également là. Il ne pleure pas parce que il est séparé de Lazare, il ne pleure pas à la manière, si vous voulez, des autres hommes, même à la manière de Marie, n'est-ce pas, il pleure parce que l'émotion a grandi en lui, il pleure doucement. Le mot grec, d'ailleurs, qui est employé, signale des pleurs silencieux. Et nous voyons vraiment là que la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Dans la personne du Seigneur Jésus, il y a parfaitement l'esprit et aussi cette nature humaine. Et son esprit d'homme est lié à l'esprit divin, parfaitement lié à l'esprit divin. La parole a été faite chair, et la parole est là, qui peut considérer les choses de très loin, dans le temps, et partout. Et puis, l'homme est là aussi pour ressentir les émotions d'une telle situation. Ne faut-il pas que Jésus participe aux conséquences de la révolte de l'homme ? Il lui a été donné de porter une chair semblable à celle du péché, c'est-à-dire une chair qui n'est pas différente de celle des autres hommes. La seule différence, c'est l'absence totale du péché, n'est-ce pas ? Mais la chair est là, c'est-à-dire c'est la chair des conséquences du péché qui est là. C'est cette chair-là, cette chair dégradée, en somme, qu'il porte. Mais il ne porte pas le péché. Il faut qu'il éprouve ce que l'homme éprouve, mais rien en Jésus n'a d'autre origine que l'esprit. L'âme ressent, mais elle ne ressent que les mouvements qui se produisent dans l'esprit du Seigneur. Les pleurs du Seigneur sont interprétés par les témoins de cela uniquement sous l'aspect de l'affliction d'un ami. Ils ne peuvent pas comprendre autre chose que cela, bien sûr. Ils voient là l'affliction d'un ami et certains même vont en tirer la conséquence que Jésus est incapable devant cette mort, qu'il est là, vaincu lui-même devant cette mort, il est comme tous les autres, il ne peut rien faire que pleurer. Beaucoup vont penser pendant un temps cela. Certains juifs, toujours animés de l'esprit critique et de la contestation, s'étonneront qu'ayant fait des miracles par ailleurs, des miracles que tout le monde connaît, Jésus n'ait pas guéri celui qui était son ami. Et cela, bien entendu, c'est la contestation, et nous l'avons déjà observé, la contestation, la contradiction sera toujours dans les remous de l'Évangile, du Seigneur Jésus ou de l'Évangile, ce qui est la même chose, car l'Évangile, c'est le Seigneur. Et l'Évangile, puissance de Dieu pour quiconque croit, c'est le Seigneur à l'heure, l'Évangile. Eh bien, dans les remous, donc, de l'Évangile, il y aura toujours la contradiction selon la prophétie de Siméon. Celui-ci sera un signe qui provoquera la contradiction. Il ne peut pas en être autrement. Et nous entrons dans la contradiction du côté de Jésus. Nous entrons dans cette contradiction, et attention de ne pas mettre un pied dans l'autre partie de la contradiction, n'est-ce pas ? Restons dans la contradiction de Jésus, du côté de Jésus. Et puis, voici que vient le moment du miracle. Jésus frémit à nouveau en esprit. Pourquoi frémit-il une seconde fois en esprit ? C'est qu'il va manifester le pouvoir victorieux de Dieu sur la mort. C'est une grande minute dans les annales de la terre. Il va manifester le pouvoir victorieux de Dieu sur la mort. Et cela, en raison de cette mort qu'il l'attend lui-même, pour bientôt. Lui-même va mourir pour donner la vie véritable qui ne se perd plus à ses frères les hommes. Jésus meurt. Chose étrange, il meurt pour donner la vie à ses frères les hommes. Parce que la vie ne peut pas être donnée à la créature déchue autrement que par une résurrection. Et qui dit résurrection, dit mort. N'est-ce pas, pour ressusciter, il faut mourir. Ça paraît être une lapalissade, mais c'est une grande vérité simple qu'il faut considérer. Ainsi donc, Jésus est là, il frémit en son esprit, il voit déjà sa mort, mais il voit aussi le bénéfice de sa mort. Et déjà là, il va accomplir un signe de puissance qui va montrer par avance la victoire de la vie sur la mort. On était devant le sépulcre du lieu où se tenaient Jésus, Marie, Marthe et les autres et les Juifs, on s'est rendu au sépulcre. Le sépulcre était une grotte fermée par une pierre. Une pierre qui pouvait se déplacer en la roulant. Certains voient un sépulcre qui serait dans l'autre sens, c'est-à-dire qui serait un trou dans la terre, n'est-ce pas, un trou dans le rocher et fermé par une pierre qui serait donc dans la position horizontale. D'autres, au contraire, voient le sépulcre comme un trou, n'est-ce pas, évidemment, mais dans une paroi verticale du rocher. Je crois que cette seconde version convient mieux au texte, parce que le texte nous dit « c'était une grotte ». Or, une grotte, ce n'est pas un machin pour les spéléologues, n'est-ce pas, pas un trou. Pour eux, c'est une grotte, c'est quelque chose qui est précisément dans une paroi quasi verticale. Donc, le sépulcre était fermé par une pierre, Jésus commande d'ôter la pierre. Et c'est à ce moment que Martin va faire à haute voix une réflexion. Car la pensée de Martin s'attache sur le moment à une crainte tout humaine. Quand elle entend le Seigneur Jésus commander d'ôter la pierre, n'est-ce pas, elle va dire, « Oh, mais Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là, dans le sépulcre. » Pourquoi Martin fait-elle cette réflexion? Il y a 2 causes à cela, 2 causes qui se conjuguent, n'est-ce pas? Elles se conjuguent l'une l'autre. La première, c'est une crainte tout humaine et bien compréhensible de la pénible sensation que Jésus et les personnes présentes vont éprouver à l'ouverture du sépulcre dès qu'on aura ouvert la pierre. Bah, cette odeur putride va sortir, n'est-ce pas, et tout le monde va en être plus ou moins incommodé. Mais Marthe, n'est-ce pas, ressent une sorte de pudeur pour la personne de son frère. Va ouvrir le sépulcre d'un mort qui est là depuis quelques jours seulement, n'est-ce pas, et qui est en proie à la décomposition, cette odeur cadavérique, n'est-ce pas, quelque chose de dur à supporter, cela la gêne, il y a une gêne de sa part, n'est-ce pas, c'est son frère qui est là. N'est-ce pas? Il y a donc une sorte de pudeur et de crainte qui la font agir. Lazare n'avait pas été embaumé d'une façon totale, complète. Il avait simplement été extérieurement, on avait mis des aromates extérieurement, et puis alors on l'avait entouré de bandes, n'est-ce pas? C'était la sépulture d'un pauvre. Et l'embaumement était quelque chose qui était réservé aux riches. Donc le corps de Lazare avait été simplement enveloppé, comme nous le voyons ici, n'est-ce pas, avec des linges et des bandelettes. C'était une sépulture toute simple, celle du pauvre. Mais Marthe, qui est amenée par cette crainte et cette pudeur, n'est-ce pas, à formuler cette réflexion, éprouve aussi quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Il y a une réserve. Il y a une réserve. Jésus vient au sépulcre. Il dit d'ôter la pierre. Il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Est-ce bien cette résurrection dont il a parlé? Mais le Seigneur, mais attention, mais le Seigneur ne se doute pas, le Seigneur n'a pas réalisé, voyons, qu'il y a 4 jours qu'il est là, qu'il sent déjà ce qui veut dire qu'il est déjà en décomposition. Non seulement ça va être gênant pour tout le monde, mais en plus de ça, mais comment ressusciter un pauvre corps qui est déjà gagné par la corruption? C'est un obstacle, ça, n'est-ce pas? Ça lui paraît pas possible. Ressusciter un mort tout frais encore, qui vient de mourir, là, n'est-ce pas? Encore, elle peut le concevoir. Mais là, un homme qui est depuis 4 jours, n'est-ce pas, est déjà en proie à la résurrection. Elle est venue tous les jours avec sa sœur. Elle est venue là, près de la pierre. Et elles ont bien senti, n'est-ce pas, que la décomposition était déjà à l'œuvre. Alors, n'est-ce pas, la raison intervient, voyez-vous, non seulement la crainte, la gêne qu'elle éprouve, mais la raison qui intervient aussi, la raison qui intervient. Oh, comment faire ressusciter un homme comme ça? Le Seigneur ne se doute pas, n'est-ce pas? Vous savez, il arrive souvent, et nous avons, nous, toujours, cette détestable manie, déplorable, hein, de croire ou de croire, enfin, sans bien le formuler, sans bien se le dire, n'est-ce pas? Mais enfin, d'avoir des pensées qui, en somme, prêtent à Dieu des faiblesses. Dieu pourrait se tromper, Dieu pourrait avoir oublié certaines circonstances. Nous sommes sur la terre, nous connaissons mieux que Dieu les circonstances de la terre, vous comprenez? Il y a tas de choses pratiques que nous connaissons bien, mais Jésus ne le sait pas, tout ça. Alors, n'est-ce pas, Dieu pourrait avoir oublié quelques circonstances, une circonstance terre à terre, mais qui est tout de même, à nos yeux, très importante, et on croit devoir faire au Seigneur des observations de prudence. Ben, voyez-vous, faire des observations prudentes, mais Seigneur, tu ne sais pas, voyons, ce que tu vas faire là, mais enfin, tu ne vois pas où tu t'engages, mais enfin, tu sais, nous savons, n'est-ce pas? Voyez-vous, on voit souvent les apôtres dans cette attitude-là, et nous y sommes quelquefois aussi, je l'ai souvent remarqué, n'est-ce pas? Nous sommes là, très volontiers, nous ferions des observations. Nous avons la parole du Seigneur qui nous dit telle chose. Mais, non, alors c'est pas possible, n'est-ce pas? On raisonne les choses, voyez-vous? On raisonne comme si la toute-puissance de Dieu pouvait avoir à tenir compte des contingences, des circonstances, des petits obstacles de la terre, n'est-ce pas? Et on raisonne. Jésus va faire à Marthe cette belle réponse, je te l'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce qui prouve bien qu'il y avait eu tout de même de pas cette réserve dans la pensée de Marthe. Ben, il y avait eu cette réserve. Ah, mais comment ressusciter un homme dans un pareil état, n'est-ce pas, après 4 jours dans le sépulcre? Alors, c'est pas possible, son corps peut pas être amené à la vie, il est déjà, en somme, en proie à la décomposition, par conséquent, toutes ces choses-là, ça ne peut pas revivre, ces tissus-là, un corps comme ça ne peut pas revivre, n'est-ce pas, c'est pas possible qu'un corps, voyez-vous, n'est-ce pas la raison qui s'attache aux lamentables petites vues de l'homme. Une raison, la raison humaine, elle s'attache aux vues de l'homme. Voilà, la raison ne connaît que cela, les vues de l'homme, les vues pauvres, les vues limitées de l'homme, n'est-ce pas? Et puis alors, la foi, eh bien la foi, elle est comme couverte par cette raison humaine, ce raisonnement de l'homme, n'est-ce pas? Avec sa vue courte, sa petite vue sur les choses de la terre, eh bien la foi se trouve là comme couvert. C'est pourquoi le Seigneur va lui dire, je te l'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce qui ne veut pas dire que là Jésus n'était pas absolument décidé, certain même d'accomplir la résurrection de Lazare, mais il fallait tout de même stimuler Marthe pour que elle fasse un sursaut de foi. Marthe, encore un degré de foi à franchir. Il faut qu'elle sache que les circonstances les plus irrémédiables de la terre, les obstacles considérés par l'homme comme majeurs, ne font rien, ne peuvent rien faire devant la puissance de Dieu. Lorsque cette puissance de Dieu doit agir, les circonstances de la terre sont rien. Ça ne compte pas. Ça ne compte même pas. Et la puissance de Dieu est capable d'écarter tout, de transformer tout, de triompher de tout. Marthe a donc besoin de franchir un degré de foi. Et si tu crois, ce qui veut dire, elle croit déjà pour une part, si tu élèves ta foi jusqu'à cet état d'âme qui atteint l'absolu, cet état d'âme qui est une confiance, en la parole de Dieu et sans la plus légère restriction, une confiance qui ne tient aucun compte des obstacles, alors, à ce haut degré de foi, la gloire de Dieu peut être contemplée. La vie, tu vas la voir triompher de la mort toi-même. Et le Seigneur, n'est-ce pas, de recommander à Marthe de croire pour voir, de croire pour voir, non pas de voir pour croire, mais de croire pour voir. C'est la marche par la foi et non par la vue dans laquelle le Seigneur veut que toute l'Église s'engage. Ah, chers amis, oui, cette foi qui est un état d'âme atteignant l'absolu. C'est un état d'âme, la foi. Et il faut veiller à cet état d'âme. Nous avons dans le cœur, dans l'esprit, n'est-ce pas, le sens spirituel qui est l'organe, un organe spirituel, un organe d'esprit par lequel il nous est possible d'exercer une foi entière, totale, la foi de Dieu. Mais il faut y arriver, il faut grimper cela, n'est-ce pas? Il ne faut pas dire au Seigneur, comme les apôtres l'avaient fait, « Seigneur, nous sommes assis, nous sommes là, tranquilles, nous ne bougeons pas, nous sommes bien gentils, augmente-nous la foi, Seigneur, nous ne bougeons pas, nous ne faisons rien, mais toi, augmente-nous la foi. » Non, le Seigneur va leur dire, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sève, si vous en aviez, vous devriez en avoir. » Dieu vous a donné la possibilité d'en avoir. À vous de l'exercer. C'est votre part, c'est la part de l'homme, cela. Si vous aviez de la foi. Et la foi devrait atteindre cet état d'âme, qui est un état d'âme absolu, parce que c'est un état d'âme qui rejoint Dieu, chers amis. La foi, c'est cela, cet état d'âme qui rejoint Dieu. La foi entraîne une volonté qui se hisse au niveau de celle de Dieu. Et c'est là que tout se fait. Lorsque la volonté de l'homme dans la foi est au niveau de la volonté de Dieu, n'est-ce pas, la volonté de Dieu qui est bien sûr souveraine, n'est-ce pas, mais la volonté de l'homme qui connaît la volonté de Dieu et qui se hisse par la foi au niveau de la volonté de Dieu, n'est-ce pas, les deux étant conjugués, alors tout se fait. C'est là que tout se fait. La foi doit donc être ça. N'est-ce pas? Elle doit être un état d'âme qui doit atteindre jusqu'à l'absolue confiance, irraisonnée, inconditionnelle, une confiance qui est un abandon dans la parole de Dieu entièrement. Mais attention chez le chrétien, pas une confiance qui se manifeste aussi par une conduite, par un comportement. Parce qu'il ne peut pas y avoir foi en une partie de la parole de Dieu et pas en l'autre. Et s'il y a foi en toute la parole de Dieu, eh bien il y a mise en pratique de toute la parole de Dieu. Par conséquent, vous voyez que chez le chrétien, les œuvres sont nécessairement le témoignage, le test, le critère de la foi. Et puis, après cette parole, le Seigneur Jésus va lever ses yeux vers le ciel. Ce qui indique une pensée que nous avons à recueillir de la localisation de Dieu le Père. Je ne peux pas m'exprimer autrement, n'est-ce pas? Mon Père qui est dans les cieux. Jésus lève les yeux vers les cieux. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas parce qu'il est humain comme d'aucuns l'ont dit, n'est-ce pas? Tout est parfaitement un mouvement de l'esprit dans la personne de Jésus. Je vous l'ai dit, tout est esprit, n'est-ce pas? Tout est dirigé par l'esprit, sans quoi il se serait départi de sa sainteté, de sa perfection, n'est-ce pas? Mais il faut que nous recueillions ce geste comme les déclarations « Mon Père qui est dans les cieux, je suis venu du Père et je retourne au Père. » N'est-ce pas? Nous voyons que le Père est localisé. Chers amis, faute d'avoir perdu cela dans la Bible, faute d'avoir couvert cela par notre incrédulité, parce que nous avons l'incrédulité chez les évangéliques, nous en avons encore une certaine carapace d'incrédulité, chers amis, à faire tomber. Eh bien, faute d'avoir recueilli cela, on en arrive aujourd'hui à avoir ouvert la porte à ces fausses doctrines telles que celle de Jésus seul, n'est-ce pas, vous connaissez, n'est-ce pas, le baptême au nom de Jésus seul, celle qui y veut absolument nier la Trinité, parce que ce nom n'est pas dans la Bible, mais le mot ne fait rien, mais nier, n'est-ce pas, ce que la Bible nous enseigne des personnes divines qui sont une personne, mais qui nous sont présentées tout de même comme trois personnes, se parlant entre elles, étant dans des emplacements différents, dans des endroits différents. Le Saint-Esprit est partout, le Fils, lui, il est à un certain endroit, le Père, aussi la personne de Dieu, le Père, nous est présentée par les Écritures comme localisée. Si le Père était partout, s'il n'était pas localisé, il n'y aurait aucune différence entre le Père et le Saint-Esprit, aucune différence. Le propre du Saint-Esprit, c'est d'être partout. Il est là, tu m'entoures, par devant, par derrière, tu es partout. Si je vais même dans le séjour des morts, tu y es, n'est-ce pas? Je ne peux pas te fuir, c'est le Saint-Esprit. Mais la personne de Dieu, le Père, quelques conceptions que nous ayons, et attention à nos conceptions, sur la question de corps, n'est-ce pas, de personne corporelle, n'est-ce pas, nous ne savons pas ce que c'est qu'un corps céleste. Savons pas. Un corps céleste et un corps spirituel, savons pas du tout ce que c'est. Alors, nous sommes ignorants. On devrait l'être pas trop, l'être un peu moins, mais on l'est beaucoup. Généralement, on est ignorant de tout ça. Alors, n'allons pas dire, parce qu'il est dit Dieu est esprit, Dieu est immatériel. Si Dieu n'a pas une personne localisée, alors Dieu est le Saint-Esprit. Dieu le Père et le Saint-Esprit se confondent, nécessairement. Et s'ils se confondent, eh bien, le geste de Jésus n'a aucun sens, aucune signification. Chers amis, respectons l'Écriture. Respectons l'Écriture, elle ne nous trompe pas, elle est vraie. La personne du Père, je ne veux pas parler de corps puisque l'Écriture ne prononce pas cela, n'est-ce pas? Mais je dis simplement, la personne de Dieu le Père est localisée dans une lumière inaccessible, comme l'apôtre Paul nous le dit. Mais en tout cas, n'est-ce pas, sachons bien une chose, c'est que nous ignorons ce que sont les esprits et ce que, encore plus, ce qu'est la personne de Dieu, le Père, n'est-ce pas? Nous avons là-dessus des idées très mauvaises et nous croyons spiritualiser toute chose en détruisant le réel, en détruisant le réel qui nous gêne. Ainsi donc, le Père n'est plus présent sur la terre, il n'est plus présent que dans la personne du Fils. C'est le Fils qui est présent sur la terre, n'est-ce pas? Et le Fils lève les yeux vers le ciel, car là est la demeure du Père. Gardons ces choses telles que la Bible nous les enseigne. Jésus va rendre grâce. Il va rendre grâce pour la résurrection comme d'une chose déjà faite. Il connaît l'exaucement et nous pouvons dire que le temps n'intervient pas. Nous aurions besoin de savoir un peu ça. C'est encore une de nos limitations qui empêche la foi, cela, chers amis. Ah, nous avons un calendrier, nous avons un temps qui s'écoule, n'est-ce pas? Il s'écoule régulièrement, c'est une fonction linéaire, n'est-ce pas? N'ayez pas peur, c'est un avion. Simplement, c'est la sottise des hommes. Disons donc que... oui, le temps, n'est-ce pas, a un écoulement régulier, ça, nous en avons la notion qui est imprimée en nous, dans notre pensée, et puis... pour pas nous défaire de ça. On ne peut pas se défaire de ça. Il faudrait s'en défaire. Vous savez que Dieu est hors du temps. Et on ne peut pas imposer à Dieu notre calendrier, n'est-ce pas, ni même notre marche connue du temps. Le temps est une dimension, disent les savants, une dimension. Eh bien, comme toutes les dimensions, elle est illimitée. Il n'y a pas de dimension qui soit finie. Tout est infini. Le temps est infini. Et Dieu est hors du temps. Si bien que Jésus, nous le voyons ici, n'est-ce pas, il connaît l'exaucement. Mais cet exaucement, il l'a. Il le tient. La volonté de Dieu était arrêtée concernant la résurrection de Lazare. Et elle était connue de Jésus. Eh bien donc, cela suffit, la chose était. La volonté de Dieu étant arrêtée et étant manifestée au Seigneur sur la terre, qui est sur la terre, n'est-ce pas? Il ne fait rien que ce qu'il son père lui dit de faire, n'est-ce pas? Bon, alors, la chose, les œuvres qu'il voit faire au Père, c'est comme si le Père avait, lui, dans le ciel, ressuscité Lazare, voyez-vous? C'est la même chose, n'est-ce pas? Je ne dis pas que c'est tout à fait... l'expression de la réalité, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça, tout se passe comme ça, comme si déjà il était ressuscité. La volonté de Dieu étant donc formée, établie, quant à ce fait, n'est-ce pas? Eh bien, ça suffit, le fait est là. Il est là. Il est obtenu, même avant qu'il ne soit vu sur la terre, ou qu'il ne soit touché, avant que l'objet de la volonté de Dieu se manifeste dans le sensible, dans le monde sensible, cet objet existe déjà. Car la volonté de Dieu, c'est l'origine de toute chose. La volonté de Dieu, c'est l'origine de toute chose. L'Apocalypse vous le dira, enfin, on n'a pas le temps d'y aller maintenant, n'est-ce pas? Mais la volonté de Dieu, c'est là qu'est l'origine de toute chose. C'est là, n'est-ce pas? C'est par ta volonté, disent les anciens, n'est-ce pas? C'est par ta volonté que toutes choses existent et qu'elles ont été créées. C'est par ta volonté. Dès que la volonté de Dieu est donc établie, ça y est, la chose existe. Pour nous, elle peut être différée par rapport au calendrier de la terre, n'est-ce pas? Mais elle existe. C'est cette idée-là qu'il faudrait que nous ayons. Et c'est ce que Jésus nous a enseigné. Voyons... Marc 11. Marc 11 et verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voyez, il faut... que vous ayez la foi, parce que la foi, sans la foi, on ne peut rien voir. On ne peut pas voir la gloire de Dieu, ce n'est pas possible. Si tu crois, tu verras, il y a une condition. Bon, alors, si croyez que vous l'avez reçu, vous l'avez demandé.
Vous l'avez demandé dans les conditions requises par la prière, c'est-à-dire une prière valable, attention. Une prière de juste, hein. Ah, prière de juste. Pas la prière de celui qui se tient habituellement dans l'iniquité ou dans le péché, hein. La prière du juste. La prière éclairée par l'esprit, bien entendu, la vraie prière. Alors, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, exercez la foi là-dessus, puisque vous l'avez demandé, et que Dieu vous a dit que tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, il vous le donnera. Alors, exercez la foi, et puis dites, eh bien, je l'ai, parce qu'à ce moment-là, vous savez, vous devez savoir que la volonté de Dieu est formée, est établie. Alors, vous l'avez. C'est ce que Jésus nous enseigne. Et puis, l'accomplissement, mais ça, c'est pas gênant. C'est rien. Nous, nous mettons tout sur l'accomplissement. Parce que nous avons besoin d'une vue qui vérifie la chose. Ça, nous voulons vérifier. Ah, on veut vérifier, vous comprenez? On veut bien faire la foi, un petit peu de foi, mais il faut vérifier. Vérifier la chose. Et c'est pas ça que veut le Seigneur Jésus. Parce que la volonté de Dieu, si vous l'avez engendrée, si je puis dire, par votre prière, vous avez amené Dieu dans sa fidélité à ses autres promesses. Vous l'avez, en quelque sorte, obligé, vous avez obligé Dieu à former une volonté pour ce que vous avez demandé. Sa volonté étant formée, établie, ça y est, vous avez la chose. L'accomplissement, je vous dirais, alors c'est rien. Ce n'est rien du tout. C'est comme ça qu'il faudrait qu'on fait, voir les choses. Alors il faut être sûr avant de voir. Parce que la foi qui dit, je vais bien voir, j'ai prié, je crois que Dieu peut le faire, on va voir si ça se produit. Ah non. Ça, il faut le saisir avant, C'est cela que le Seigneur nous... Et alors, comprenez la raison, c'est que quand la volonté de Dieu est formée, la chose existe, elle existe. Ce n'est pas son accomplissement qui est son existence, c'est la volonté de Dieu pour cette chose. Voilà ce qu'il faut comprendre. Alors nous sortons des contingences de la terre, pas nous sortons de notre petite compréhension des choses, notre petite compréhension enfantine, limitée, pauvre, n'est-ce pas? Nous sortons tout ça, nous dépassons ça, et nous allons vers la compréhension des choses en esprit. Et c'est ainsi, mes amis, que l'Église devrait accomplir les œuvres qui lui sont données. C'est comme ça qu'elle devrait marcher, l'Église. Jésus avait rendu grâce à haute voix afin de préparer la foule et de lui faire comprendre que la résurrection de Lazare serait un signe de Dieu. Mais tout ça, c'est fait pour l'Église. C'est fait pour l'Église, tout cela. Et l'Église devrait pouvoir dire, je sais que tu m'as exaucé, je sais que ta volonté est formée, je ne me fais pas d'inquiétude, on me dira, ou je verrai moi-même tout à l'heure, que la chose demandée s'est accomplie, n'est-ce pas? Et ce qui arrive souvent, voyez témoin, notre cher petit ami et frère Laurent, n'est-ce pas, que j'ai quitté, moi je ne savais pas qu'il avait été guéri, n'est-ce pas? Eh bien, voyez, j'avais cru qu'il serait guéri, pourquoi pas? J'avais demandé à Dieu, et puis, c'est un enfant de Dieu. Et puis, sa femme avait prié aussi avec moi, on l'avait demandé à Dieu. Eh bien, j'ai quitté sa maison sans rien savoir. Et puis, plus tard, j'ai appris, voyez-vous, qu'il avait été guéri. C'est comme ça qu'il faudrait que l'Église marche, qu'elle marche ainsi. Seulement, n'est-ce pas, malheureusement, nous trébuchons toujours, alors nous laissons réapparaître le doute, le vilain raisonnement humain, le doute, n'est-ce pas? Comme par exemple, je vais vous citer un cas qui m'a révolté, chers amis. Je ne sais plus quelle année c'était, c'était la première, nous sommes à la troisième année de Père Guillot actuellement, je ne sais pas si c'était la première, la deuxième. Ben, il y avait un brave frère qui était là, n'est-ce pas, et qui avait bien besoin du secours de Dieu. Bon. Il vient à l'onction d'huile, il s'était bien préparé, je m'étais spécialement occupé de lui. Et puis, il va à l'onction d'huile pour être guéri, tout confiant, tout... Enfin, et puis, l'onction d'huile se faisait comme maintenant, n'est-ce pas, après le culte.
Et puis alors, la réunion prend fin, et puis chacun s'en va dans la... Il n'y avait pas un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, que l'onction d'huile lui avait été faite, lui, il était tout heureux, etc. Hein? Alors, il y a une sœur bien avisée, il en reste que ce soit une sœur, mais sous les peut rien. Une sœur bien avisée qui vient vers lui, puis qui lui dit, écoutez, voilà, vous pourrez encore aller à telle autre, la réunion, puis alors là, on va encore prier pour vous, on va vous faire, parce que là, comme ça, vous n'êtes pas guéri, là, vous serez là-bas. Oh, ce pauvre homme est tombé. Cher ami, quel crime! Quel crime! On ne se rend pas compte, quelquefois, qu'avec une parole comme ça, on commet un crime, un véritable crime! Chers amis, cet homme avait besoin du secours de Dieu, et il l'avait! Il l'avait! Alors, après, on l'a retrouvé, il était faible, on l'a retrouvé pleurant, abattu, n'est-ce pas? Il ne savait plus que penser. Chers amis, comme il faudrait qu'on mette un cadenas ici devant la bouche, comme il faudrait que nous soyons spirituels pour ne pas commettre d'un père pareil. Méfiez-vous de ce que vous dites, méfiez-vous de vos conversations, que ce soit des conversations qui édifient, et non pas des conversations, des mots qui blessent et qui détruisent la foi. L'Église devrait marcher ainsi, c'est ça la marche de l'Église. Et chers amis, si nous voulions vraiment connaître que l'Église est la vraie Église de Jésus-Christ, eh bien oui, il faudrait que nous ayons des exaucements dans tout ce qui est le domaine des œuvres de l'Église, des œuvres de Dieu, des œuvres de Jésus par l'Église. Il faudrait que nous ayons des exaucements en tout et que nous l'essayions bien. Alors là, nous pourrions dire, nous sommes dans la vérité et nous marchons dans la vérité. Lazare sort, va commander le Seigneur Jésus. C'est le commandement de la parole de Dieu qui prononce. La parole de Dieu dit, elle prononce. Et la chose arrive. La chose s'accomplit. Il faut un commandement pour, sur la terre, traduire la volonté de Dieu qui a déjà donné la chose. N'est-ce pas? Alors, pour la traduire, pour la faire, en somme, il s'agit tout simplement, l'accomplissement, c'est l'apparition sur la terre d'une chose qui est déjà donnée, qui est déjà obtenue, qui est déjà là, n'est-ce pas, dans les célestes, n'est-ce pas, puisque la terre est subordonnée aux célestes. Alors, Lazare sort, et voyez comme c'est simple pour le Seigneur Jésus, disons, et ça devrait l'être pour nous, quelle grande leçon nous avons là. Lazare sort, il est certain, je sais que tu m'as exaucé. Alors là, si nous venions nous imposer les mains aux malades, et si nous venions, n'est-ce pas, prier et avoir cette certitude de toujours, mais ce serait magnifique. Nous avons connu à Alger, pendant un temps, hein, des choses comme ça. Moi, je me rappelle cette extraordinaire facilité. Extraordinaire. Mais alors, n'est-ce pas, on était convaincus, il y avait un niveau de spiritualité, on était convaincus, on était sûrs des choses. On était sûrs, on les sentait, on les avait. Nous avons connu ce temps, chers amis. Et les choses se faisaient avec la plus grande facilité. Facile, on n'avait pas besoin de prier fort longtemps, on n'avait pas besoin d'insister, les choses se faisaient. Lazare sort, c'est le commandement de la parole de Dieu. Une voix forte, nous dit le texte, c'est-à-dire une voix souveraine. La voix souveraine de Dieu. La parole exprimant la volonté de Dieu. Et voici que Lazare sort, mais il est encore porté par la puissance de Dieu, car il ne peut pas marcher et il ne peut pas voir. Il y a des commentateurs tellement bien avisés, mes amis, et voyez, je vous montre ça pour vous montrer le mauvais côté des choses. Des commentateurs qui ont dit, mais c'est pas possible qu'il sorte quand même du sépulcre comme ça, avec les jambes et les mains liées, puis le visage couvert d'un voile, d'une étoffe, n'est-ce pas? les mains liées, les pieds liés, surtout comment il peut faire pour marcher, n'est-ce pas? C'est pas possible, ça, entouré de bandelettes, n'est-ce pas? Alors, naturellement, ils vont pas supposer que la puissance de Dieu est capable de porter Lazare, n'est-ce pas, le transporter de quelques mètres hors du tombeau et le planter là devant les assistants. Non, non, ils ne sont pas capables de ça, n'est-ce pas? La foi est limitée, ce sont des commentateurs évangéliques, s'il vous plaît. Alors, ils vous disent, attendez, ça vont trouver. C'est que les pieds étaient entourés chacun de bandelettes, n'est-ce pas? Chaque pied avait ses petites bandelettes, alors il pouvait encore marcher. Que c'est épouvantable, affreux, chers amis, affreux, ce manque de foi, ça déshonore le Seigneur. Il nous a dit qu'il avait les pieds liés. Qu'est-ce que ça veut dire, les pieds liés? Ce n'est pas l'expression qui serait employée. Si c'était chaque pied, n'est-ce pas, avec des bandes, n'est-ce pas, des bandes moltières, n'est-ce pas, comme on faisait autrefois pour les soldats, c'est pas ça, n'est-ce pas? Il a les pieds et les mains liés. Mais c'est normal, on lui a attaché sur lui, n'est-ce pas, les mains, et les pieds sont liés ensemble, comme ça faisait un petit peu comme les choses d'Égypte, là, les... Hein? Oui, c'est ça. Exactement comme ça, n'est-ce pas? Alors, il est porté, et la preuve qu'il ne peut pas marcher, ou encore une autre preuve, c'est que le Seigneur va commander qu'il soit délié. Alors, qu'est devenue la corruption de ce corps? Parce que c'est bien le corps de Lazare qui sort. C'est bien le corps, il est avec ses bandelettes, il est avec tous ses linges, il est dans son enveloppe là de sépulcral, n'est-ce pas? Tout son habillement de mort, n'est-ce pas? Il est là. C'est bien lui, c'est bien le corps de Lazare, c'est bien le corps de Lazare qui est sorti. Alors la corruption, le Seigneur a pu remettre en vie, en mouvement, mais rafraîchir, si je puis dire, ses organes qui déjà étaient en proie à la corruption. Ben, vous savez ce que c'est que la corruption? Ben, c'est quelque chose d'irréversible. Quelque chose d'irréversible. Et pour Dieu, rien n'est irréversible par conséquent. Et il peut revenir, réobtenir un corps tout prêt à fonctionner, des tissus sains, en bon état, en bonne condition. C'est quelque chose de fabuleux. N'essayons donc jamais, chers amis, de calculer avec la puissance de Dieu, n'est-ce pas? De calculer ses effets. La puissance de Dieu est totale, est une chose mystérieuse pour nous, incompréhensible, c'est notre foi qui doit s'y attacher. Un point, c'est tout. Lazare sort. Il est évident que l'impression causée, l'émotion devait être grande. Sans que j'entende la foule, n'est-ce pas, faire un murmure. Ça devait être quelque chose, une minute vraiment saisissante, que de voir ce mort sortir comme ça, les gens ont presque reculé, n'est-ce pas? Jamais. Le miracle était extraordinaire. En même temps, il y avait le côté, bien sûr, du point de vue humain, le côté spectaculaire d'un tel miracle. Un homme, un mort lié, là, qui vient, n'est-ce pas, avec son costume de mort, se présenter tout droit, pas devant les assistants. C'était vraiment quelque chose de bouleversant. Mais on voit au contraire le Seigneur Jésus imperturbable, et très calmement, le Seigneur Jésus va leur dire, déliez-le, et laissez-le aller. Déliez-le. Comme si c'était un événement tout simple, un événement presque banal, n'est-ce pas? Une opération coutumière. Déliez-le, laissez-le aller. C'est une chose magnifique, n'est-ce pas, qui nous montre bien la personne du Seigneur Jésus. Non seulement nous voyons le signe, le miracle, mais nous voyons la personne du Seigneur Jésus. Et voici maintenant qu'une fois le surnaturel à l'œuvre, lorsque le surnaturel a fait sa part, alors toute chose rentre dans le cours normal des choses de la terre. Voyez-vous, tout va s'inscrire dans les choses. Alors, Lazare va retrouver ses jambes, ses pieds, son activité, il va pouvoir, n'est-ce pas, embrasser
ses sœurs, embrasser tout le monde. L'évangile ne nous dit rien de cette minute d'émotion. On aurait bien aimé savoir un petit peu plus, n'est-ce pas? Et que l'évangéliste qui était là, l'évangéliste puisse nous dire, oh ben, il est venu se jeter dans les bras de Jésus, il l'embrassait. Rien de tout cela. Nous sommes des grands sentimentaux, nous aurions bien aimé cet arrière-plan sentimental, n'est-ce pas? Mais l'évangile ne nous donne pas. Ce qui montre que l'évangile veut nous laisser en route sur le chemin de l'esprit. Il veut que nous attachions aux choses de l'esprit et non pas seulement aux choses de l'âme. Nous sommes prédisposés, nous, aux vibrations de l'âme, à la sensibilité, n'est-ce pas? Mais le Seigneur ne veut pas ça, n'est-ce pas? Pourtant, c'est certain que Lazare est venu se jeter dans les bras de son ami Jésus. Allons, voyons, on ne peut pas concevoir les choses autrement, n'est-ce pas? Il embrassait tout son monde, il revenait de loin, si on peut dire, n'est-ce pas? Eh bien, c'était une grande minute, même les yeux devaient être mouillés de larmes encore. Eh bien, rien de tout cela ne nous est dit, rien. Les choses reprennent leur cours normal selon le déroulement des choses de la terre. Ensuite, je passerai très vite sur la fin de notre lecture, c'est-à-dire les versets 45 à 57. Bien entendu, le miracle va provoquer de grands remous, surtout parmi les Juifs, des remous profonds et persistants. Ce sera une division. Certains croiront et il y aura une récolte. Ce signe aura donné, ce signe n'était pas fait pour le moment seulement, mais il aura été l'occasion d'une récolte. Certains croient et d'autres gardent leurs pensées ténébreuses et sont même poussés à mal faire parce qu'ils vont dénoncer Jésus aux pharisiens. Ce qui va déterminer les pharisiens à réunir le Sanhédrin. Vous voyez que, regardez, chers amis, si on reçoit la parole de Dieu, nettement, dans un cœur humble, avec foi, alors on est porté au bien. Si on la conteste, si on la laisse à la porte, si on ne la reçoit pas, on est porté au mal, à plus de mal. Aux uns donnant la vie, aux autres donnant la mort. Et puis, il y a dans ce passage la prophétie involontaire de Caïphe, qui exerça la souveraine sacrificature l'an 25 à l'an 36. Si cet homme avait été deux fois ce souverain sacrificateur, vous savez ce qu'il aurait fait s'il avait compris toute l'écriture? Il serait venu se prosterner lui-même devant Jésus. Il n'aurait pas d'ailleurs attendu cette minute pour le faire. Il serait venu se prosterner devant Jésus et puis il lui aurait dit: Seigneur, moi je suis souverain sacrificateur de la loi de Moïse, moi je suis un de ceux qui est succédé à tant d'autres, et derrière moi d'autres pourraient encore me succéder, car je suis moi-même un homme pécheur. Mais toi, tu es le vrai souverain sacrificateur, tu es le souverain sacrificateur que Dieu a envoyé parmi les hommes et qui vient apporter le sacrifice libératoire. Ah, il aurait dit cela, il aurait compris cela. Au lieu de cela, il va vouloir donner au complot du Sanhédrin son intelligence. Il va communiquer son idée, c'est de communiquer l'intelligence, la suprême malice à ce complot du Sanhédrin, n'est-ce pas? Et il va se mettre à prophétiser. L'évangéliste Jean nous dit, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était afin que de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain cette année-là, souverain sacrificateur, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et il est en somme comme Balaam. Un Balaam, n'est-ce pas, qui vient pour maudire et qui est obligé de bénir. Et lui, n'est-ce pas, il vient là pour donner une direction habile au complot des Juifs, hein, n'est-ce pas? Et puis, il est là, il prophétise. Il prophétise. précise la vérité qui sort d'une bouche souillée. Mais cependant, Dieu le permet quelquefois, nous le voyons.
Le glorieux prodige qu'était la résurrection de Lazare allait précipiter les manigances des Juifs et aviver encore leur hâte d'en finir avec cet homme, et ils auront le front d'avouer qu'ils redoutent de voir la foule s'attacher à Jésus à cause de ces miracles. Ils ne nient pas les miracles, ils ne nient pas les signes, ils les reconnaissent. Ah, chers amis, ils entrent dans le péché contre le Saint-Esprit, d'où l'on ne revient plus. Ils entrent là, dans ce péché contre le Saint-Esprit. Ils ont reconnu les signes de Dieu, les miracles sont grands, ils ne peuvent les expliquer, mais ça va troubler leur vie présente, ça va déranger les tas de choses auxquelles ils sont tellement attachés. Alors, ils complotent, ils vont résister à Dieu. Chers amis, ils ont commis péché contre le Saint-Esprit.